Sainte-Hélène, le 5 mai, il y a 200 ans, clap de fin pour Napoléon, mais l'histoire ne se termine pas là. La légende, les clichés, les faits, les polémiques et les mots, de A à W, de Austerlitz à Waterloo.
Pascal Paradou.
Parlons-nous Napoléon ? La question n'est pas évidente, mais à y regarder de près, cette période de l'Empire a irrigué notre quotidien, notre vocabulaire et la langue française. Nous allons donc passer en revue le lexique napoléonien avec Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire à la Sorbonne, auteur d'une quarantaine de livres sur ce général illustre devenu le premier empereur français. Le dernier en date s'appelle Napoléon, le dernier romain. Bonjour Jacques-Olivier Boudon.
Bonjour.
Et il faut rajouter que vous êtes le président de l'Institut Napoléon. Donc, vous parlez le Napoléon couramment ?
Depuis une trentaine d'années, en effet, je me suis acclimaté à ce vocabulaire et je parle, enfin, je ne sais pas si je le parle couramment, mais en tout cas, je baigne dans l'histoire napoléonienne depuis longtemps.
Napoléon parlait corse ou français ?
Le corse, en fait, l'italien, parce qu'à l'époque, il est originaire d'une famille d'origine italienne, donc il parle l'italien, c'est sa langue maternelle, et il apprend le français très jeune, malgré tout, parce qu'il appartient à une famille de notables d'Ajaccio, où dans laquelle on apprend aux enfants le français, mais ça n'est pas sa première langue, c'est ce qui explique qu'il a conservé un accent, qu'il conserve aussi des tournures italianisantes, si l'on peut dire. Par exemple, il mouille les L, ce qui fait que quand il prononce son nom, Napoléone, cela donne ce son qui va faire que ses petits camarades au collège de Brienne, quand il arrive sur le continent dans les années 1780, vont le surnommer la Paillonnée, parce qu'ils comprennent mal la manière dont il prononce son nom. Et c'est une caractéristique qu'il conserve pendant toute son existence. Il va conserver des habitudes de ce type.
Mais comment vous savez ça ? Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement de la langue de Napoléon ?
Il n'y a pas d'enregistrement, mais il y a des témoins, des mémorialistes qui ont raconté la manière dont Napoléon parlait, parce que Napoléon est scruté depuis pratiquement sa jeunesse. Il a eu des camarades à Brienne qui sont devenus ensuite célèbres, qui ont écrit aussi des mémoires. Et tout au long de son existence, finalement, il y a des témoins qui ont raconté la manière dont Napoléon prononçait, dont il faisait parfois des fautes d'orthographe. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait beaucoup de secrétaires. C'est pas uniquement parce qu'il est chef d'État, mais c'est aussi une façon de masquer quelques fautes d'orthographe qu'il pouvait commettre.
Mais quand il est à Paris, il parle français.
Naturellement. À partir du moment où il arrive en France, donc sur le continent, comme on dit, il va parachever son apprentissage du français. Il lit le français, naturellement. Il fait ses études en français au collège de Brienne, à l'école militaire. Naturellement, il est parfaitement bilingue.
Jacques-Olivier Boudon, qu'en est-il de l'unité linguistique en 1800, c'est-à-dire à peu près au moment où il prend le pouvoir, enfin il est premier consul, il devient empereur. Est-ce qu'on parle français partout en France ? Non, pas du tout.
Pas du tout. Il y a eu une enquête qui avait été diligentée par la Convention donc en 1794 et menée par l'abbé Grégoire, qui montre qu'en France, il y a 15 départements où l'on parle le français et tous les autres, on parle ce qu'on appelle à l'époque des patois, langue régionale. Donc on parle le breton dans une grande partie de la Bretagne, on parle le gascon dans le sud-ouest, le béarnais, le basque naturellement, le provençal, bref, et plus des patois de Languedoc dans le nord, en Bourgogne, etc. Donc partout, finalement, on parle des langues au moins dans le peuple, parce qu'évidemment les élites, la bourgeoisie parle le français, c'est ce qui distingue d'ailleurs socialement les classes sociales. La paysannerie parle les langues régionales, la bourgeoisie parle le français.
Alors là, on parle de la France, mais si on parle de l'Empire, qui inclut l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, la Prusse, le français n'existe pratiquement pas, ou alors comme langue diplomatique seulement.
Le français est à la fois la langue diplomatique, mais c'est tout de même au XVIIIe siècle la langue des élites. C'est-à-dire que les aristocrates, en particulier européens, que ce soit en Russie, le tsar Alexandre a été élevé pratiquement en français par un précepteur, Laharpe, qui est un Suisse. Il parle mieux le français que Napoléon, d'une certaine manière. Et les élites, on le voit à travers les romans de Tolstoï, qui sont postérieurs, les élites, l'aristocratie russe parle français, comme l'aristocratie autrichienne, allemande. Donc, le peuple parlent les langues régionales, les langues locales. D'ailleurs, en Allemagne, il y a aussi des langues très différentes d'une région à l'autre. Mais les élites, dans certains cas, parlent le français.
Donc, c'est une phase d'expansion pour le français, mais cela ne doit rien à Napoléon. C'est l'état de la langue à cette époque-là.
Disons que la domination française va bénéficier de cet acquis qui date au moins du XVIIIe siècle, qui va permettre d'ailleurs d'engager une sorte de bilinguisme dans les pays conquis, que ce soit les monarchies vassales. Je prends par exemple le cas du royaume de Westphalie qui est gouverné par le frère de Napoléon, Jérôme. On y introduit le français à côté de l'allemand comme langue de l'administration. Il y a même un journal qui est créé, le Moniteur Westphalien, qui est bilingue avec une partie française et une partie allemande.
Et ce bilinguisme va s'installer parce que l'Empire est relativement court.
Alors, ce bilinguisme ne va pas s'installer véritablement, mais sur le moment, il permet de faire collaborer à l'occupation française, à la présence française, des autochtones, que ce soit des Hollandais en Hollande, des Italiens, des Allemands, qui, parlant français, finalement, bénéficient aussi des places. Ils vont pouvoir occuper des places dans la magistrature, dans la fonction publique. C'est beaucoup plus commode quand on parle français.
Du français de l'Empereur et de l'Empire et de l'actualité musicale, c'est aujourd'hui dans De Vive Voix, une jeune chanteuse du nom de Jeanne Gabrielle Que des Roses. Des roses, que des roses, pour l'empereur peut-être, petit clin d'œil, cette jeune chanteuse Jeanne Gabrielle est née à Ajaccio. Alors c'est aujourd'hui le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier et nous sommes avec le président de l'Institut Napoléon, Jacques-Olivier Boudon. Quel est le rôle de cet institut? C'est d'encenser le personnage, de contribuer à la légende ou de faire l'inventaire de la période sans occulter les pages noires, dont la restauration de l'esclavage?
Alors c'est une association qui est ancienne, c'est la plus ancienne association qui travaille sur Napoléon. Elle date de 1932, mais elle est adossée à la Sorbonne pratiquement depuis les origines. Je suis le cinquième président. Tous ont été, à part le premier, professeur par ailleurs à la Sorbonne. Donc on fait des recherches sur Napoléon, on organise des colloques, on organise des conférences, on publie une revue, on publie des ouvrages sans vocation hagiographique, mais en voulant faire de la recherche sur cette période.
Et la vérité, si l'on peut parler de vérité
en histoire, c'est très difficile de parler de vérité, mais on peut au moins essayer de s'en approcher.
Alors si un mot doit résumer cette période historique, Jacques-Olivier Boudon, est-ce que ce ne serait pas finalement le mot le plus simple et qu'on a déjà prononcé, c'est-à-dire le mot empire? Parce que le mot existe bien évidemment pendant l'Antiquité, il y a eu l'Empire ottoman, il y a eu l'Empire carolingien, mais est-ce qu'il existe avant, au XVIIe, XVIIIe, ou est-ce que c'est vraiment Napoléon qui le réactive?
Alors Napoléon est très influencé par l'Antiquité. C'est ce que je montre dans mon dernier ouvrage, Napoléon le dernier romain. C'est-à-dire que pour lui, les grands modèles dans l'histoire, ce sont les modèles des empires de l'Antiquité, l'empire d'Alexandre, l'empire romain, et puis celui qui va succéder à l'empire romain, c'est-à-dire l'empire carolingien. Il est véritablement fasciné par la figure de Charlemagne, et cet empire carolingien s'est perpétué à travers les siècles, à travers le Saint-Empire romain germanique. Et d'une certaine manière, lorsque Napoléon envisage la restauration d'une monarchie, il préfère se tourner vers l'Empire plutôt que vers la royauté, parce que la royauté, c'est le souvenir des Bourbons, et il veut s'en détacher. Et devenir empereur, c'est devenir finalement plus grand que ne l'étaient les rois de France. L'Empire désignant en réalité deux notions. C'est à la fois une domination territoriale, et c'est aussi un pouvoir. Imperium, le terme vient évidemment du latin, et ce qui signifie qu'on va pouvoir désigner à travers le mot empire à la fois le régime politique qui est fondé en 1804 avec à sa tête Napoléon et qui domine une France de plus en plus élargie, mais aussi l'ensemble de l'Europe sous domination française, alors même que sont conservées des monarchies qui sont néanmoins des monarchies vassales. Donc il y a une mutation de ce terme d'empire, et incontestablement Napoléon veut se muer en héritier de Charlemagne.
Le mot dit bien ce qu'il est, et ce qui est à cette époque-là. Empire, empereur, c'est le projet politique.
C'est un projet politique, c'est un projet qui vise à la restauration de la monarchie, sans le dire, puisque l'article 1 de la Constitution de l'an 12, 1804, précise « Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le nom d'empereur des Français ». Donc on n'a pas immédiatement rompu avec la République, parce que la République, c'est là aussi un sens romain, c'est la res publica. Donc, c'est les affaires publiques, en quelque sorte. Et l'Empire désigne aussi, comme je le disais à l'instant, cette domination très large, à la fois territoriale et politique.
Parmi les nombreuses facettes de Napoléon, on va les évoquer, il y a le réformateur de l'État. On parle de l'Empire, à l'époque, c'est 135 départements, et il crée le préfet, qui est aujourd'hui un mot usuel et une fonction usuelle. Il le crée en 1800.
Il s'inspire là encore de la Rome antique, puisqu'il reprend ce vocabulaire de préfet des préfectures qui existaient dans la République romaine. Et le terme de préfet va s'imposer en effet comme étant donc le personnage qui représente l'État dans le département. C'est l'incarnation de l'État. Le préfet est à l'image du chef de l'État, Bonaparte, qui veut incarner la fonction, on dirait aujourd'hui présidentielle, mais qui a pris conscience qu'au moment de la Révolution, finalement, il n'y avait pas eu d'incarnation de l'État. L'État est incarné par Bonaparte d'abord, puis Napoléon au sommet de l'État, et par le préfet au niveau du département.
Alors, dans les institutions où les mots qui sont devenus usuels et qui nous sont presque quotidiens, on peut citer quoi ? Le Code civil, il existe encore aujourd'hui, c'est une invention de Napoléon. La Légion d'honneur, c'est lui aussi.
La Légion
tout le monde
d'honneur
ne l'a pas, mais tout le monde sait de quoi il s'agit.
1802, en effet, c'est lui. Et elle a été pérennisée alors qu'on avait envisagé de la supprimer au moment de la Restauration.
Et le baccalauréat ?
Le baccalauréat existait déjà sous l'Ancien Régime dans les facultés, notamment de théologie, mais il l'a popularisé en quelque sorte. Il l'a, on pourrait dire, généralisé. Alors, il faut être prudent, parce que à la fin de l'Empire, c'est 6000 bacheliers. Donc on est quand même très loin des proportions actuelles.
Alors il y a Napoléon le réformateur, il y a aussi le Napoléon belliqueux, celui des campagnes militaires, on va en parler. Mais d'après Philippe Costamagna, qui est le directeur du musée des Beaux-Arts d'Ajaccio et qui vient de publier un essai intitulé « Les goûts de Napoléon », celui-ci lisait beaucoup, de tout le temps et surtout pendant les campagnes militaires.
Quand il partait en campagne, il avait sa bibliothèque de campagne faisait à peu près 4000 ouvrages. Donc, il lisait tout ce qui est en rapport au lieu où il se trouvait. Il adorait l'histoire et donc il savait exactement quel peuple il allait rencontrer, quelles étaient leurs habitudes. Et donc, toutes ces lectures étaient liées à des moments particuliers.
Et on sait à quel moment il lisait ?
Il lit tout le temps. Et si le livre ne lui plaît pas, même il le jette au feu en disant c'est une horreur. Et pareil, quand il est dans sa berline qui va en campagne, certains livres, il les jette par la fenêtre. Mais il a quand même un grand respect du livre. S'il jette un livre, c'est vraiment, il trouve ça très mauvais.
Dans votre livre, vous le comparez même parfois à un éditeur. C'était un éditeur ou pas, Napoléon ?
Il voulait même réécrire beaucoup de choses. Il veut même, par moments, réécrire certains des plus grands auteurs français. Je trouve que même Corneille, à un moment, n'est pas possible. Il est prêt à faire des ratures. Dans Sina, il y a une réplique qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire le pardon. Et il a dit, moi, je l'aurais corrigé de telle manière. Le seul qui ne veut pas retoucher, c'est Montesquieu. Le reste, il trouve que ça ne va pas. Les seuls qui est, disons, grâce à ses yeux, ce sont ses grands ennemis, c'est-à-dire Chateaubriand et Madame de Staël. Parce qu'eux-mêmes ont la liberté de l'écriture.
Qu'est-ce qu'il a laissé à la littérature, que ce soit aujourd'hui ou alors juste après sa mort ?
Il voulait que, disons, que son règne, son époque, enrichisse la littérature française. Et évidemment, c'est tout le contraire. Mais il est quand même à l'origine de ce qui sera le grand mouvement littéraire français, mais il ne le saura pas, il ne le verra pas, parce que c'est son épopée qui va créer le romantisme. S'il n'y avait pas eu Waterloo, il n'y aurait pas eu Stendhal, Musset. La grande gloire de Napoléon, c'est d'avoir perdu à Waterloo, d'être devenu un héros romantique. Et l'invention de Victor Hugo dans Les Misérables du maire de Waterloo, ça en a fait un homme extraordinaire.
Philippe Costamagna au micro de Baptiste Perrin, Jacques-Olivier Boudon, Napoléon, le romantisme, c'est un peu un raccourci, non, quand même ? Ou vous êtes d'accord ?
Alors d'abord, Napoléon, pour revenir sur les propos de M. Costamagna, Napoléon est considéré par certains auteurs du XIXe siècle comme un des meilleurs écrivains du XIXe siècle. Sainte-Beuve, par exemple, le qualifie ainsi à partir des écrits de Napoléon, qui sont très nombreux, notamment les bulletins de la Grande Armée ou les discours de guerre, que j'ai eu le plaisir par ailleurs d'éditer. Alors pourquoi romantique ? Parce que, en fait, sa captivité à Sainte-Hélène va transfigurer le personnage de ce chef victorieux, mais qui apparaissait aussi comme un tyran. C'est le terme qu'on va utiliser dans le cadre de la légende noire, notamment à travers Chateaubriand. Il se transfigure en une sorte de Prométhée qui est enchaîné à son rocher. Il devient une sorte de martyr. Son personnage se transforme et les écrivains romantiques, dont beaucoup viennent du camp royaliste, on pense à Hugo, on pense à Vigny, on pense à Lamartine. Lamartine et Vigny ont accompagné Louis XVIII en direction de Gand en 1815. Ils sont subjugués par cette mort qui apparaît comme en effet une mort romantique, la mort d'un héros que l'on va pleurer, avec l'image du saule pleureur qui va s'imposer, y compris pour les peintres qui vont le représenter. Et c'est ainsi que naît un courant romantique, une légende napoléonienne romantique qui fait que Napoléon est partout présent dans la littérature, dans les poèmes de Hugo, dans la comédie humaine dont il est un des principaux personnages, chez Stendhal, chez Vigny, il est partout. Il est partout, il est aussi au théâtre, il est dans la peinture, il va occuper l'espace.
Et avec lui, il emmène un certain nombre de noms de lieux. On cite Sainte-Hélène, où il meurt à peu près à cette heure-ci. Hein. Vous m'avez raconté juste avant le début de cette émission qu'il expire à 17h...
5h49, comme
5h49
on disait à l'époque. 5h49
de l'après-midi. Sainte-Hélène, on voit très bien ce que c'est quand on dit tuer à Sainte-Hélène. Austerlitz, Waterloo sont aussi devenus des expressions populaires. Ça, c'est le nom de ces batailles. Comment ça se fait ? Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ?
Alors, la question de Waterloo est intéressante parce que Napoléon parle au départ de la bataille de Mont-Saint-Jean. Et le terme s'est popularisé grâce aux Anglais. C'est Wellington, donc, qui gagne la bataille côté anglais, qui va imposer ce nom en datant de son quartier général qui se trouve à Waterloo. Il faut préciser que Waterloo est à quelques kilomètres du lieu du champ de bataille. Donc il date la dépêche qu'il envoie en Angleterre, à Londres, de Waterloo. Et cela popularise ce nom qui va devenir symbole de défaite pour la France. Et dès que, par exemple, une équipe de France de sport, de football par exemple, subit une lourde défaite, on parlera d'un Waterloo. Donc ça devient un terme qui est enraciné dans la culture populaire.
Waterloo qui est quand même concurrencé par la Bérézina.
Alors la Bérézina, c'est un autre exemple très intéressant, puisque la Bérézina, donc c'est le franchissement de cette rivière à la fin de la campagne de Russie, qui est un succès militaire si l'on considère que Napoléon a réussi à franchir la rivière avec son état-major et ce qui reste de l'armée encore encadré. Alors il laisse près de 30 000 soldats qui vont devenir prisonniers et souvent périr par la suite. Et donc c'est devenu, alors c'est une victoire militaire, mais c'est devenu le symbole de la retraite catastrophique de Russie. Et quand on parle de Bérézina, en général, c'est plutôt péjoratif.
Jacques-Olivier Boudon, je ne sais si vous avez fait l'inventaire, mais je me suis amusé à regarder comme ça, essentiellement sur le net, certaines formules issues tout droit de cette épopée napoléonienne. Et j'ai trouvé par exemple faire le mariole. C'est hérité de cette période-là. C'est un des grognards de Napoléon.
Alors ça, je peux pas vous répondre.
C'est un des... Alors je vais faire le prof.
C'est bon, expliquez-moi.
C'est un soldat qui était très fort, très grand, etc., etc., et qui était surnommé, je crois, l'invincible sur les champs de bataille. Mais j'ai presque honte de vous raconter tout ça. Et qui s'appelait Monsieur Mariol. Et donc faire le Mariol, c'est voyez rouler les biscottos,
rouler les mécaniques.
Rouler les mécaniques. L'épopée napoléonienne marque aujourd'hui encore le vocabulaire, mais aussi la toponymie parisienne. Pourquoi tous les boulevards autour de la capitale française ont des noms de maréchaux ?
Alors, cela date du Second Empire. C'est à l'époque du Second Empire que Napoléon III a décidé de baptiser ce qui devient la ceinture du Nouveau Paris, puisque Paris passe de 12 à 20 arrondissements en 1860. Et donc, on va baptiser les boulevards extérieurs du nom des maréchaux de Napoléon. Presque tous les maréchaux, par exemple le maréchal Marmont, le traître, entre guillemets, celui qui a ragusé, qui a lâché Napoléon en 1814, n'aura pas le droit à son boulevard.
Mais tous les autres l'ont.
Quasiment tous les autres l'ont.
Le Second Empire est important pour installer le Premier Empire aussi dans l'histoire française. L'Arc de Triomphe, par exemple...
C'est un peu avant.
C'est avant le Deuxième Empire.
Voilà, c'est à l'époque de la monarchie de Juillet, mais c'est vrai que le Second Empire va se référer au Premier Empire. Napoléon III a besoin de retrouver une légitimité, et donc il va en quelque sorte calquer d'abord les institutions, et puis toute une série d'éléments du Premier Empire, et puis progressivement il s'en détache. Au bout d'une dizaine d'années, il a pris conscience qu'il était assez fort, et qu'il pouvait se passer de cette référence à Napoléon, et un bel exemple, c'est lorsqu'on installe Napoléon aux Invalides dans le tombeau où il est actuellement, c'est en 1861, donc on en célèbre le 160e anniversaire cette année, eh bien, la manifestation est de faible envergure et il ne participera pas lui-même au centenaire de la naissance de Napoléon en 1869. Donc il a pris ses distances, il considère qu'il n'a plus besoin de Napoléon pour régner en maître sur la France.
Jacques-Olivier Boudon, la question maintenant est de savoir comment la jeune génération a pris conscience de cet héritage, si elle intègre ces noms de maréchaux ou ces expressions qu'on évoquait. Eh bien, c'est le sujet de la puce aujourd'hui avec Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie, première.
Oh, bonjour Pascal. Oserais-je vous demander si vous en êtes un?
Un quoi?
Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille de la radio.
Un peu de respect, s'il vous plaît, Lucie.
Vieux de la vieille, en tout cas, c'est une des deux expressions que nous allons aborder aujourd'hui dans la puce avec Hélène de Champchenel. Un vieux de la vieille, c'est pas toujours très simple pour nos apprentis linguistes.
Déjà, un vieux de la vieille, ben, il y a vieux et vieille. Et vieille, peut-être, ça fait penser à vieille dame. Et vieux, c'est peut-être du vieux jeu. Si elle joue à ça avec ses petits-enfants, ils lui disent « on va jouer à un vieux de la vieille ».
Un vieux, c'est un vieux monsieur. Et la vieille, c'est une vieille dame. C'est un vieux couple.
Moi, vieille, ça me fait penser à veille. Donc peut-être qu'en fait, c'est une personne qui est très jeune, mais mentalement, il est vieux. Ou l'inverse, c'est une personne qui est très vieille et mentalement, il est jeune. Et donc, c'est un vieux de la veille.
Un vieux de la vieille, c'est quelqu'un qui est très, très âgé.
Le vieux, c'est le mari de la vieille. Sinon, ça peut être une personne... Ça fait longtemps qu'il existe, quoi. Ça fait longtemps qu'il est né. Il est très vieux. On dit de la vieille parce que de la vieille époque...
Bonjour Hélène de Champchenel.
Bonjour Lucie.
Alors, on l'a entendu, pour les enfants, c'est pas très clair. S'ils comprennent vaguement le sens de cette expression, pour ce qui est de l'origine, c'est beaucoup plus compliqué. Le vieux, bon, bah, ça semble évident. Mais alors, pour la vieille, c'est une toute autre histoire.
Oui, c'était bien tenté, mais c'était pas tout à fait ça. La vieille, en réalité, c'est une institution, celle de la garde impériale de Napoléon. C'est celle-là qu'on appelle alors la vieille garde. Elle a été créée en 1804. Sa première mission, c'est de protéger l'empereur. Et puis c'est aussi la garde impériale qu'on envoyait pour galvaniser les troupes ou pour accomplir les missions les plus périlleuses qui demandaient un savoir-faire particulier.
Parce qu'en fait, la vieille garde faisait partie de la garde impériale. La garde impériale était divisée en trois gardes, c'est bien ça ?
Alors, au départ, il y en avait même qu'une, c'était la vieille garde. Et puis, c'est seulement en 1806 et puis 1808 qu'on lui a rajouté une jeune et une moyenne garde. Et à ce moment-là, le corps d'origine a gardé son nom de vieille garde. Mais au tout début, la vieille garde, c'est la garde impériale.
Donc la vieille garde, c'est la crème de la crème.
C'est les plus expérimentés, c'est-à-dire que pour rentrer dans la garde impériale, faut déjà avoir une sacrée expérience. Faut avoir au moins servi 10 ans, faut avoir participé à au moins 3 campagnes. Donc quand on dit qu'un soldat est un vieux de la vieille, autant dire que c'est un des soldats les plus expérimentés. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre cette expression. Alors certains disent aussi que l'image du vieux dans la vieille garde se serait construite du fait que les hommes portaient les cheveux longs et poudrés, ce qui leur donnait une allure un peu grisonnante, mais moi je pense qu'il faut surtout retenir cette expression au titre de leur expérience.
Donc le vieux de la vieille, c'est le vieux de la vieille garde, on perd le mot garde, et on retrouve cette expression dès la deuxième moitié du 19e siècle, dans un roman de Balzac, Le cousin de Ponce. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme, Hélène de Champchenel, à cette expression, un vieux de la vieille ?
Alors le premier qui me viendrait à l'esprit, c'est un vieux briscard, mais c'est amusant parce que c'est aussi une expression napoléonienne. Dans la grande armée de Napoléon, la brisque, c'est un mot familier pour désigner le chevron, c'est-à-dire en fait le galon en forme de V qui était cousu sur la manche de l'uniforme des soldats lors de son réengagement. Donc, à chaque fois qu'il se réengageait, il recevrait une nouvelle brisque, un nouveau chevron. Et quand on voyait sur sa manche qu'il avait plusieurs chevrons, il s'agissait d'un soldat chevronné avec du galon, un vieux briscard expérimenté. On s'approche vraiment du côté un vieux de la vieille.
Donc, il y a le vieux de la vieille, le vieux briscard. On peut parler aussi d'un vieux loup ou d'un vieux routier.
Oui, un vieux routier, c'est bien. C'est une personne qui a vu du pays, qui a une longue expérience, qui a l'habitude de gérer les dangers de la route. Ça me semble assez parlant.
Et puis, c'est aussi quelqu'un à qui on ne la fait pas.
Exactement.
Alors, il y a d'autres expressions de l'époque napoléonienne qu'on nous avons déjà évoquées dans la puce à l'oreille et qui font référence à ces batailles, plus ou moins heureuses d'ailleurs. C'est le cas pour la bérésina. Et puis, il y a aussi le coup de Trafalgar. Mais il y a une expression, Hélène de Champchenel, sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le fameux mot de Cambronne.
Oui, alors le mot de Cambronne, on se transpose à la toute fin de l'Empire, au moment même de l'agonie de l'Empire. On est à Waterloo le 18 juin 1815 et là, les ennemis de l'Empire sont en train de l'emporter. Et juste à ce moment-là, sur le champ de bataille, il y a un officier anglais qui somme le général Cambronne de se rendre. Le général Cambronne, qui est le major de la garde impériale, et qui aurait répondu par ces paroles absolument sublimes, la garde meurt mais ne se rend pas.
Ça, c'est la jolie histoire.
Exactement. Il y en a d'autres qui prétendent qu'il aurait tout simplement répondu merde. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Cambronne a survécu à l'Empire et qu'il a toujours nié avoir prononcé l'un ou l'autre de ces deux mots.
Eh bien, merci Hélène de Champchenel d'être venue nous éclairer sur ces expressions napoléoniennes. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et maître de conférences à Sciences Po Paris et que vous avez fait paraître la tournée des Grands Ducs et 99 autres expressions héritées de l'histoire de France aux éditions First. Merci beaucoup Hélène de Champchenel.
Merci Lucie.
Merci à vous. Et oui, mais c'est bien sûr merde, monsieur le président de l'Institut Napoléon, Jacques-Olivier Boudon. C'est la légende, on ne prête qu'aux riches, ou il l'a vraiment dit, Cambronne?
Il l'a sûrement dit, dans la mesure où la garde meurt mais ne se rend pas. C'est un peu long pour un homme qui était tout de même, comme beaucoup de militaires, habitué à un langage beaucoup plus fruste et beaucoup plus direct. Je pense que s'il a dit un mot, ça, c'était plutôt le second.
Donc on parle Napoléon tous les jours, ou presque? Enfin, le Napoléon.
On parle le Napoléon tous les jours, effectivement.
Merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon. Alors je ne vais pas citer tous vos livres car ils sont nombreux. Le dernier en date s'appelle Napoléon, le dernier romain, il est édité aux Belles Lettres. Et puis il y en a un dans votre bibliographie qui m'intéresse beaucoup, c'est le sexe sous l'Empire. Il y a une particularité, c'est une position sexuelle, le Napoléon ?
C'est surtout une période de révolution sexuelle, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre.
Il se passe quoi ?
Ah, il se passe beaucoup de choses, dans l'armée en particulier. 2 500 000 jeunes gens célibataires qu'on envoie à travers l'Europe, vous imaginez ce que cela peut donner.
Napoléon, le dernier romain édité aux Belles Lettres, et puis Les goûts de Napoléon de Philippe Costamagna. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, Baptiste Perrin en reporter. À demain.
Un jour, un match.